Bifou Culture.
Avec, comme chaque lundi, Laurent Michel. Bonjour Laurent.
Bonjour Amel.
Donc il fait moins 2, il y a de la bruine et vous voulez me parler de bain et de douche froide, c'est bien ça?
C'est bien ça, mais bien douche froide chaud, bien à l'abri, il faut aller dans les bains, quoi, dans les bains de vapeur.
Oui.
Par ce temps-là. Oui. Et puis nous en parlons justement du bain de la douche froide avec la plus grande de nos auteurs fribourgeoises. Mélanie Richaud vient nous parler de son dernier livre paru aux éditions Slatkin, Le bain et la douche froide justement, mais c'est une invitée pleine de chaleur, donc c'est plutôt pour réchauffer les cœurs que l'inverse. Vous voyez Amel, comme j'essaye de rebondir quand même sur votre introduction.
Comment vous en faites trop, Laurent Michel?
C'est un recueil de nouvelles dont deux lectures sont organisées pendant ce mois de décembre, ce dimanche 7 à Ébullition et le 16 à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Bonjour Mélanie.
Bonjour Laurent.
Nous avions eu la joie de vous recevoir pour la sortie du livre, c'était en avril dernier, 24 nouvelles qui sont compulsées dans ce dernier ouvrage. Est-ce qu'il y a une thématique globale? Parce que bien sûr, c'est des petites histoires qui font 3 ou 4 pages. Est-ce qu'il y a une thématique globale ou pas nécessairement?
Non, il n'y a pas de thématique globale. Il y a un souhait d'humanité, il y a un souhait de rencontrer des personnages, de leur donner de l'espace pour exister, mais il n'y a pas une thématique globale. Il y en a certaines qui viennent un peu à répétition, comme par exemple l'humiliation, mais on ne retrouve pas cette thématique dans toutes les nouvelles.
J'en ai choisi une justement un peu au hasard. J'avais bien sûr lu le livre en long et en large et en travers. Et il y en a une qui m'avait d'ailleurs à l'époque beaucoup touchée, qui est Alceste en fait, qui est l'histoire d'un petit garçon qui se fait plutôt maltraiter à l'école. Et la fin est un peu tragique certes, mais voilà. Quelle est l'histoire d'Alceste?
Alors l'histoire d'Alceste, c'est un garçon qui ne s'appelle pas Alceste, mais que l'enseignante surnomme comme ça parce qu'il salit ses devoirs et qu'il est un peu rondouillet, comme dans le petit Nicolas, comme Alceste du petit Nicolas. Donc il est malmené par la prof, il est malmené par les élèves, et durant toute l'année, et le dernier jour de classe, alors que tous les élèves rangent leurs affaires, etc., et qu'Alceste s'absente, d'autres élèves photocopient son écriture et écrivent une lettre d'amour à la prof, avec son écriture à lui, et déposent cette lettre d'amour sur le pupitre de la prof. La prof revient, Alceste revient, la prof lit la lettre et va vers Alceste et lui lance la lettre à la figure en disant « Est-ce que tu crois que ça suffit avec tout le mal que tu m'as fait ?» Et puis tous les autres se taisent et vont boire un verre de pot de fin d'année. Alceste ne vient pas et voilà, après, je ne vais pas dire la fin de la nouvelle pour ne pas tout dévoiler, mais voilà, c'est l'histoire d'Alceste qui finalement est la victime d'une classe, comme il y en a souvent dans toutes les classes.
Des victimes et des bourreaux, on en retrouve toujours, on est soi-même victime ou bourreau, mais là, dans le cas de l'histoire d'Alceste, pourquoi avoir choisi cette histoire-là? Pourquoi avoir voulu raconter cette histoire?
Je trouve qu'elle illustre bien le fait qu'on peut des fois être bourreau par omission. C'est une histoire vraie, en fait, sauf la chute de l'histoire, enfin le délai du décès et la manière du décès ne sont pas vrais, mais tout ce qui précède est vrai. Et j'étais dans cette classe-là, donc quelque part, j'ai été aussi bourreau. Des fois, on est victime, et puis peut-être que dans le bain à la douche froide, il y a ce souhait-là, c'est de pouvoir s'identifier à la fois dans les bons rôles et dans les mauvais rôles, parce qu'en étant humain, on est autant le noir que le jaune soleil.
C'est aussi reconnaître effectivement sa part d'ombre et de lumière. Et pouvoir aller dedans, parce qu'on l'a tous été une fois ou l'autre à l'école, surtout l'école. C'est quand même un monde assez difficile pour chacun. Voilà, c'est un exemple de nouvelles, mais bien sûr, tous ne sont pas comme ça. Il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, ça donne à réfléchir. Pourquoi avoir justement choisi comme titre, donc Le bain et la douche froide? Le bain et la douche froide est une des 24 nouvelles qui se trouvent dans le recueil. Pourquoi avoir choisi le titre de cette nouvelle comme titre du livre?
Alors, le bain à la douche froide, ce titre-là est justement en lien avec l'ombre et la lumière. Le bain représente plutôt la lumière, la vie ou l'espoir ou le désir, tandis que la douche froide correspond plutôt à la peur, parfois à la mort, parfois à ce qui est plus douloureux. Je l'ai aussi choisi parce que c'est la première nouvelle que j'ai écrite et c'est celle qui donnait vraiment la couleur au roman. Et j'avais envie de cette dualité constante en prenant le livre dans les mains que ce livre a fait d'ombre et de lumière, en fait.
justement, pourquoi avoir décidé pour une histoire d'ombre et de lumière, justement d'avoir compulsé ces histoires, ces différentes nouvelles qui ne dépassent jamais 3 ou 4 pages, plutôt que d'avoir fait le choix d'un roman, comme c'était le cas pour votre précédent ouvrage?
Je me suis dit qu'en écrivant toutes ces nouvelles si courtes, je m'étais grillé toutes mes idées de roman. Mais j'avais écrit 2 romans avant et j'avais envie d'une formule plus courte. J'aime beaucoup ce qui est percutant. Je me sens plus authentique et plus... Je me sens plus dans le vrai en écrivant du court. J'aime aussi le long, mais le long est plus angoissant parce qu'on ne sait jamais comment on va finir, quand on va finir. Tandis qu'une nouvelle, elle ne s'écrit pas sur 1 année, mais sur 2 semaines ou 3 ou 4. Donc, ça permet un changement d'univers plus fréquent.
Donc, elle devient aussi plus vite indépendante, cette nouvelle.
Ouais. Elle vit toute seule et c'est aussi plus léger pour l'auteur parce qu'on peut passer à autre chose.
les 7 et 16 décembre, vous ferez des lectures. Comment est-ce que vous présentez ce genre de choses? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un accompagnement en musique? Est-ce que vous lisez le livre directement comme il est? Ou est-ce que vous arrangez un petit peu les textes quand même?
Alors c'est une lecture en duo avec Émilie Zoé. Elle lit quelques textes, j'en lis quelques-uns. Sur les textes que je lis, elle est là avec sa guitare, elle fait de la musique, donc c'est des lectures musicales. En tout, on lit peut-être environ 8 nouvelles. Donc, il y a un tri, il y a une sélection, et à l'intérieur des nouvelles, il y a aussi des passages qui sont écourtés afin que la lecture soit plus dynamique et plus percutante.
Quelle est l'importance pour vous d'organiser ce genre de lecture publique? Quelle est l'importance de communiquer directement par la parole ce que vous avez écrit à des gens qui peut-être n'ont pas encore lu votre livre?
Alors l'importance, moi je crois que c'est de faire vivre le livre ou de le faire survivre là en Suisse. Et il y a une sorte de devoir d'accompagner le livre au-delà de la publication, même si au moment où il sort, il nous appartient plus du tout. Même si c'est quelque part difficile de faire ces lectures parce que ça nous appartient plus justement. Dans l'idéal, j'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre qui lise. Et là, vu qu'Émilie lit, je suis très contente. Ça donne une toute autre dimension au texte. Par exemple, elle lit la première nouvelle qui s'appelle Mademoiselle Jupenlaire, qui est une fiction, contrairement à d'autres nouvelles dans le livre. Et elle la lit, je l'ai inventée, je sais que c'est pas vrai. Et quand elle la lit, j'ai l'impression que c'est la sienne, que c'est son histoire. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est quelle horreur, ça t'est arrivé. Du coup, ça devient vrai.
Et vous redécouvrez aussi vous-même vos propres textes?
Oui, du coup, je découvre mes propres textes. Et ce passage par l'autre est pour moi très important. Ce serait un idéal que de trouver des gens qui lisent nos nouvelles.
Ouais. On est proche presque que là du conte, en fait. C'est une mise en scène aussi du moment où il n'y a pas le rythme du conte, il n'y a pas ce qu'on peut retrouver dans un conte. Mais donc du coup, vous êtes plus proche des gens qui vous écoutent. Qu'est-ce que, à vous, ça vous apporte justement de faire ces lectures, même si vous préfériez que ce soit d'autres qui le fassent?
Ça apporte un échange ou un partage. Même si pendant les lectures, le spectateur est très silencieux, ça fait quelquefois peur parce qu'on se dit, mais il s'embête. Puis en fait, non, les spectateurs sont plutôt en train de se faire leurs propres images, d'imaginer, d'être touchés. Là, on a fait une lecture au port cet été et il y avait des gens qui pleuraient. Enfin, c'est vrai que le thème de certaines nouvelles est quand même assez profond, assez bouleversant, mais c'était bouleversant pour moi de voir que des mots, des histoires qui sont en partie vraies puissent faire pleurer d'autres gens. Donc il y a quelque chose de partagé et de...
Il y a une résonance.
Il y a une résonance, quelque chose d'assez universel finalement. Ce qu'on ne retrouve pas quand on écrit un livre et qu'on le donne et que quelqu'un le lit dans son coin.
Le bain et la douche froide est paru, je le répète, en avril 2014. Donc ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est dans les librairies, que les gens l'ont lu. Quels échos avez-vous eu? Comment a-t-il été reçu? Ou quels échos avez-vous encore? Parce que
j'ai eu de bons échos, avec certaines fois des reproches de cruauté. On m'a souvent dit quelquefois que c'était trop cruel. Certaines personnes ont abandonné parce que c'était trop. Et moi, je pense que si on est capable de cruauté, de voir et de mesurer la cruauté, c'est quelque part qu'on est capable d'empathie pour les personnages. Et donc, on est capable d'amour. Et je pense que l'un va avec l'autre, comme le bain va avec la douche froide.
Et effectivement, le projet, vous êtes en plein dans la promotion aussi de ce livre, mais d'autres projets en perspective, il y aura par rapport au bain et la douche froide ces prochains mois, en plus des deux lectures.
Par rapport au bain et la douche froide, je crois qu'on aura peut-être encore quelques lectures l'année prochaine, mais c'est encore pas vraiment fixé. Il y a d'autres projets en janvier, à Mitteni. J'ai écrit un spectacle pour enfants qui s'appelle Marceau et le Grand Rasin. C'est un spectacle tout public qui a été créé sur l'initiative de Mathieu Kyriakidis, qui va composer la musique. Il y aura un orchestre sur scène et il y aura aussi un film animé qui a été créé par Baptiste Cochard, le garçon qui a fait la couverture du bain et la douche froide, et qui sera mise en espace par Julien Schmutz. Donc c'est une création complètement fribourgeoise.
100% fribourgeoise, effectivement. Et d'autres projets pour le prochain livre, vous avez déjà des idées, puisque vous disiez en début d'interview que vous aviez eu peur d'avoir épuisé tous les sujets en écrivant des nouvelles assez courtes.
Alors oui, j'ai des idées, j'ai toujours cette superstition de ne pas parler
avant
que quelque chose soit concret. J'ai quelque chose en cours et ça fait son chemin. Je vous en parlerai sans doute plus tard.
Juste avant, nous allons nous quitter quand même bientôt, mais juste avant, le bain et la douche froide, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de leur lecture? S'il ne devait y avoir peut-être qu'une seule chose, vous aimeriez que ce soit quoi?
J'aimerais que les gens retiennent que ces histoires ont pu exister ou pourraient exister, que finalement, dans la douleur et dans l'amour, tout est possible, que tout est vraisemblable, que même si parfois ça a l'air cliché, je pense que les fictions sont souvent moins clichés que la réalité. J'aimerais qu'on puisse laisser de la place à l'humanité et puis... Moi, ça me touche que les gens puissent être touchés et s'identifier.
Je retiendrai une chose de votre livre en le lisant, en relisant, en le parcourant, depuis que je l'ai dans les mains, c'est que voilà, nous sommes tous et ombre et lumière, et que dans cette dualité, eh bien, on prend le cas d'Alceste dont on parlait au début, eh bien, on peut devenir bourreau et être dans l'ombre, et on peut être à d'autres moments justement dans la lumière. Donc, j'encourage les gens qui ne le connaissent pas encore, en tout cas, allez vous écouter et acheter votre livre. Donc, je rappelle Le Bain et la Douche Froide, qui est paru aux éditions Slatkin, qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. Il y a des lectures organisées ce dimanche 7 décembre à Ébullition à 20h, mais aussi le 16 décembre à la BCU de Fribourg à 18h30. Bien sûr, sur les sites d'Ébullition de la BCU, on peut retrouver aussi des renseignements à ce sujet. Bien, vous êtes sur Facebook, et autrement, vous avez un blog qui est www.melanierichaud.com. Bien sûr, voilà, il y a aussi des articles de presse, des explications. Bref, il y a de quoi faire plein de choses. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Mélanie, et à très bientôt.
Merci. Bonne journée.
Radio FR.